Bonjour à chacune et à chacun. C'est une joie de pouvoir vous rendre visite ce matin. La dernière fois que j'étais présent dans ces locaux, c'était à l'occasion de baptême que nous avons eu à l'église des Ternes, dans le 17e. Nous avons pu bénéficier de votre hospitalité. Et avant cela, c'était l'église Saint-Lazare, à l'occasion d'un culte qui était célébré le samedi après-midi. Mais cela dit votre partenariat dans l'Évangile, la joie de pouvoir travailler ensemble dans l'Évangile. Je m'appelle Paul Harrison, je travaille à mi-temps pour l'église de la rue de Sèvres et puis aussi à mi-temps pour l'église des Ternes, une église au départ fille de l'église de la rue de Sèvres qui a été éprouvée par le décès de notre frère Edouard Nelson l'an dernier. Et donc je suis content de travailler à la fois avec l'église de la rue de Sèvres et des Ternes, en particulier dans le domaine de l'annonce de l'Évangile. Et on est encouragé de voir, durant cette année écoulée, le nombre de personnes qui montrent de l'intérêt pour l'Évangile. On est passé de un groupe à deux groupes à la rue de Sèvres, et on a commencé un nouveau groupe à l'église des Ternes. Et on envisage même un troisième à l'église de la rue de Sèvres. Ça dit l'intérêt de nos contemporains pour l'Évangile, et l'on veut s'en réjouir. Avant de lire un passage des Écritures, je vous invite à la prière. Notre Dieu, notre Père, tu connais les besoins de notre cœur. Cette gloire que nous voulons célébrer, la gloire de ta grâce, nous te prions que tu nous rendes conscients de la nécessité d'être en conformité avec ta parole, à l'écoute de cette parole, pour que nous puissions célébrer ta gloire en effet et vivre selon ta volonté, de manière à te plaire. Nous comptons sur ton esprit, nous te prions que Jésus-Christ soit glorifié parmi nous, parce qu'il en est digne. En son nom, amen. Nous allons lire ce matin dans le livre de 1 roi, au chapitre 19, les versets 1 à 18. 1 roi, chapitre 19, 1 à 18. Achab rapporta à Jézabel tout ce qu'avait fait Élie et la manière dont il avait tué par l'épée tous les prophètes. Jézabel envoya alors un messager à Élie pour lui dire « Que les dieux me traitent avec la plus grande sévérité si demain, à la même heure, je ne te fais pas ce que tu leur as fait. » Voyant cela, Élie se leva et partit pour sauver sa vie. Il arriva à Beersheba, une ville qui appartient à Juda, et il y laissa son serviteur. Quant à lui, il marcha toute une journée dans le désert, puis il s'assit sous un genêt et demanda la mort en disant « C'est assez. Maintenant, Éternel, prends-moi la vie, car je ne suis pas meilleur que mes ancêtres. » Il se coucha et s'endormit sous un genêt. Et voici qu'un ange le toucha et lui dit « Lève-toi et mange. » Élie regarda et il vit à son chevet un gâteau cuit sur des pierres chauffées, ainsi qu'une cruche d'eau. Il mangea et but, puis se recoucha. L'ange de l'Éternel vint une deuxième fois, le toucha et dit « Lève-toi et mange, car le chemin est trop long pour toi. » Il se leva, mangea et but. Puis avec la force que lui donna cette nourriture, il marcha 40 jours et 40 nuits jusqu'à la montagne de Dieu, jusqu'à Horeb. Là, il entra dans la grotte et y passa la nuit. Or, la parole de l'Éternel lui fut adressée. « Que fais-tu ici, Élie ?» Il répondit, « J'ai déployé tout mon zèle pour l'Éternel, le Dieu de l'univers. En effet, les Israélites ont abandonné ton alliance. Ils ont démoli tes autels et ont tué tes prophètes par l'épée. Je suis resté, moi seul, et ils cherchent à m'enlever la vie. » L'Éternel dit, « Sors et tiens-toi sur la montagne devant l'Éternel, et l'Éternel va passer. » Devant l'Éternel, il y eut un vent fort et violent qui déchirait les montagnes et brisait les rochers. L'Éternel n'était pas dans le vent. Après le vent, il y eut un tremblement de terre. L'Éternel n'était pas dans le tremblement de terre. Après le tremblement de terre, il y eut un feu. L'Éternel n'était pas dans le feu. Après le feu, il y eut un murmure doux et léger. Quand il l'entendit, Élie s'enveloppa le visage de son manteau, sortit et se tint à l'entrée de la grotte. Et voici qu'une voix lui fit entendre ces paroles. « Que fais-tu ici, Élie ?» Il répondit, « J'ai déployé tout mon zèle pour l'Éternel, le Dieu de l'univers. En effet, les Israélites ont abandonné ton alliance, ils ont démoli tes autels et ont tué tes prophètes par l'épée. Je suis resté, moi seul. » Et il cherche à m'enlever la vie. L'Éternel lui dit, « Vas-y, poursuis ton chemin dans le désert jusqu'à Damas. Une fois arrivé là-bas, tu consacreras par onction Hazaël comme roi de Syrie. Tu consacreras aussi par onction Jéhu, le petit-fils de Nimshi, comme roi d'Israël. Et tu consacreras par onction Élisée, le fils de Shaphat, d'Abel-Méola, comme prophète à ta place. Celui qui échappera à l'épée de Hazaël, Jéhu le fera mourir. » Et celui qui échappera à l'épée de Jéhu, Élisée le fera mourir. Mais je vais laisser en Israël 7000 hommes. Ce sont tous ceux qui n'ont pas plié les genoux devant Baal et dont la bouche ne l'a pas embrassé. Quel est l'enjeu de ce texte? Savez-vous qu'il est cité dans un ouvrage médical? Un livre intitulé « Risques psychosociaux et qualité de vie au travail » datant de 2018. Dans le chapitre sur le burn-out, ce chapitre est introduit de la façon suivante. Je cite « On retrouve loin dans le temps des descriptions cliniques de l'état de burn-out, que ce soit la grande fatigue du prophète Élie dans l'Ancien Testament ou dans la littérature plus contemporaine de Thomas Mann, etc. » Dans ce rapport de l'Académie nationale de médecine, Élie est présenté comme le premier cas, en quelque sorte, référencé de burn-out. Ailleurs, on présente Élie comme un cas de dépression. Il est possible que ce soit l'un, que ce soit l'autre, les deux. Mais quel est l'enjeu de ce texte? Une lecture thérapeutique peut nous toucher. Mais jusqu'à un certain point, le burn-out, la dépression sont trop sérieux pour être pris à la légère. Une personne qui vit cela va-t-elle se satisfaire d'une application de ce texte à ces mots-là? Je ne suis pas médecin, mais j'ai préparé une ordonnance sur la base du texte. Et la voici. Bien dormir, plutôt deux fois qu'une. Bien manger, plutôt deux fois qu'une. Marcher, mais pas trop loin. Rencontrer Dieu dans un doux murmure, et le tout devrait durer 40 jours. Vous êtes satisfait de l'ordonnance? Je sais qu'on cherche des médecins, mais à ce point-là, on en revient à la question. Quel est l'enjeu de ce texte? Une autre lecture courante de ce passage, c'est de voir une bonne leçon de morale. Dans nombre de commentaires, on trouve en fait une leçon qui tourne à la correction pour Élie. On le dit trop affecté dans ses émotions, craintif, lâche, centré sur lui-même. Et là encore, cette lecture pourrait nous séduire. On aime parfois, par similitude ou par contraste, se rassurer. Je ne me sens pas très bien aujourd'hui, un peu abattu, un peu centré sur moi, envie de rien. Ouf, je ne suis pas le seul, après tout, il y a eu Élie. Ou alors, je me sens bien en lisant ce texte, parce que je ne ressens pas ce que Élie ressent. L'idée n'est pas de disculper Élie de tout tort, de tout travers, mais à se demander encore et toujours, quel est l'enjeu de ce texte? Et je vous suggère qu'avec les deux premières lectures, on manque la cible et de loin. Pour le méditer, on va parler de deux rendez-vous. Dans les versets 1 à 4, un rendez-vous avec la mort. Et dans les versets 5 à 18, un rendez-vous avec Dieu. Au verset 2, Jézabel menace de faire tuer le prophète le lendemain, à la même heure que les prophètes de Baal ont été tués. Un rendez-vous avec la mort. Élie, au verset 4, va lui-même désirer la mort. Il a rendez-vous avec la mort, mais la mort ne sera pas là. On découvre ensuite un autre rendez-vous, un rendez-vous au mont Horeb, un rendez-vous avec Dieu, et Dieu sera bel et bien présent. On commence avec un rendez-vous avec la mort, versets 1 à 4. Que vient-il de se passer dans ces chapitres 17 et 18 ? Élie est entré en scène et tout ce récit est encadré par l'annonce d'une famine et la fin de la famine. Comme l'Alliance avec Moïse l'avait annoncé, une famine témoigne que quelque chose ne va pas sur un plan spirituel. Et l'Alliance, en effet, avec Dieu n'est pas respectée. Le peuple est décrit comme étant boiteux, oscillant entre confiance en Dieu, confiance dans les idoles. Confiance en Dieu, confiance dans les idoles. Au chapitre 18, il y aura cette confrontation entre Élie et les prophètes de Baal, entre Dieu et Baal, au mont Carmel. Et quelle est l'intention de cette confrontation ? On l'entend au chapitre 18, verset 37, « Réponds-moi, Éternel, Élie, affirme la chose suivante, afin que ce peuple reconnaisse que c'est toi, Éternel, qui es Dieu, que c'est toi qui ramènes leur cœur vers toi. » Et lorsque le feu descend pour brûler ses offrandes, la réaction du peuple semble aller dans son sens. Les personnes présentes tombent à terre et reconnaissent que l'Éternel seul est Dieu. Le roi Achab suit les recommandations d'Élie. Comme une anticipation de la fin de la famine, il va manger et boire. Lorsque la pluie revient, il monte sur son char et Élie le précède pour revenir dans la ville. À la fin du chapitre 18, en apparence, le cœur du peuple est revenu à l'Éternel. Il semble, lui, le roi, garant de cette alliance, suivre cette trajectoire. Mais le problème avec Achab, c'est que son cœur ressemble un peu à une girouette. En particulier quand il est en présence de sa femme Jézabel. Qu'est-ce qui se passe lorsqu'il rentre à la maison et explique ce qui s'est passé ? La seule réaction qu'on trouve se trouve au verset 2. Jézabel envoya alors un message à Élie pour lui dire « Que les dieux me traitent avec la plus grande sévérité si demain, à la même heure, je ne te fais pas ce que je leur ai fait. » Aucune trace de résistance de la part d'Achab ni du peuple. Ils ont affirmé que l'Éternel seul est Dieu, mais là, c'est Jézabel qui parle. Et tout le monde écoute. Vous l'entendez ? Elle jure par ses dieux, qu'Élie est un homme mort. Quel dieu ? Baal. Les dieux Baal. Et la démonstration éclatante au mont Carmel semble être déjà passée aux oubliettes. C'est Jézabel qui tient les rênes, et c'est pas Achab qui va la contredire. Quelle est la réaction d'Élie ? Verset 3. En voyant cela, Élie se leva, partit pour sauver sa vie. Il arriva à Beersheba, une ville qui appartient à Juda, et il y laissa son serviteur. Élie s'enfuit, et c'est là qu'on le dépeint généralement comme un homme craintif, centré sur lui-même, lâche. Et il est probable qu'il ait eu de la crainte de la mort, en effet. Mais cela n'explique pas tout. En 2 Rois 1, on verra qu'il est aussi menacé par les soldats du roi Akasia, mais il ne prend pas la fuite. Et si ce n'était pas uniquement pour sauver sa vie qu'il fuyait ? Si c'était le peuple entier qu'il avait présent à l'esprit. C'est vrai, il ne veut pas mourir sous les ordres de Jézabel, mais quel prophète voudrait mourir de l'ordre d'une souveraine étrangère, idolâtre, autoproclamée ? C'est vrai, il désire la mort. Un peu plus loin, Mais est-ce parce qu'il est seulement focalisé sur lui-même? C'est l'alliance avec Dieu qui le préoccupe. Et au plus haut point, c'est cette alliance avec Dieu qui est au cœur de son désir de bien remplir sa tâche et aussi de la déception lorsque ce peuple ne revient pas vers Dieu. C'est la trajectoire du peuple et pas simplement sa trajectoire qui l'intéresse. Lorsqu'il laisse partir son serviteur, lorsqu'il affirme qu'il n'est pas meilleur que ses ancêtres, oui, il est conscient d'un échec, mais est-ce parce qu'il est uniquement focalisé sur lui-même? C'est l'alliance du Sinaï qui est en jeu, l'alliance de tout un peuple, du peuple de Dieu. C'est l'avenir de ce peuple qui est en jeu. Et c'est là toute l'ironie de la situation. On dit Élie trop focalisé sur lui-même, et il se pourrait qu'on manque de voir que nous sommes trop focalisés sur nous-mêmes. Nous avons tendance à lire ce texte en nous disant très rapidement, qu'est-ce que je vais en retirer, moi? Comment est-ce que je me ressens? Je me sens, moi? Et si Élie avait cette préoccupation du peuple, alors que nous ne l'avons pas vraiment? Et si nous étions incapables de voir l'aspect communautaire de sa déception, de sa tristesse, parce que précisément nous sommes trop focalisés sur nous-mêmes? Il va falloir la deuxième partie du texte pour le démontrer, mais je vous suggère que l'état de l'alliance avec Dieu est au cœur des préoccupations d'Élie. Ce n'est pas simplement sa vie. Et sommes-nous, nous aussi, à ce point préoccupés par le peuple de Dieu, l'alliance avec Dieu sur un plan plus large, au-delà de notre situation? Ou est-ce que nous sommes tellement préoccupés par notre personne, notre condition, que nous manquons cette perspective? Dans sa lettre aux Romains, l'apôtre Paul va jusqu'à écrire la chose suivante. « J'éprouve une grande tristesse et j'ai dans le cœur un chagrin continuel. Oui, je voudrais être moi-même maudit et séparé de Christ pour mes frères, mes propres compatriotes. » Vous entendez l'empathie? Vous entendez son cœur battre avec chagrin pour ses compatriotes? Il est même prêt à envisager d'être séparé de Christ, anathème, privé du salut, de la grâce qui lui a été témoignée, de sorte que ses compatriotes puissent être sauvés. Est-ce que nous sommes déjà arrivés à une telle demande? On pourrait peut-être s'en approcher lorsqu'on pense à des personnes qui nous sont chères, des membres de notre famille, mais est-ce qu'on pourrait le dire pour nos compatriotes? Je ne sais pas pour vous, mais moi je suis repris en entendant à la fois la tristesse de l'apôtre Paul et celle d'Élie qui voit les enjeux sur un plan large, le manque d'empathie qui me caractérise alors que je considère ma situation, mes états d'âme. Que le Seigneur nous accorde, que le Seigneur nous accorde cette empathie pour ceux qui nous entourent, ce désir de les voir venir à Christ, ce désir de les voir être sauvés. Cette saine tristesse de voir des hommes et des femmes, des enfants manquer l'Évangile. Notre Père, accorde-nous cette passion pour ton renom, un amour pour ton peuple et aussi pour tous ceux qui nous entourent et qui sont sans espérance. On note au passage que si Élie pense à sa mort, cette mort va lui échapper. On note aussi qu'il demande à Dieu de la reprendre. Ce n'est pas qu'il la reprend elle-même. Il s'en remet à Dieu et l'ironie de la citation avec ce rendez-vous qu'il avait avec la mort, par la promesse de Jézabel, mais aussi par son propre désir de mourir, avec Hénoch, c'est un des seuls qui n'a pas connu la mort. La mort n'était pas au rendez-vous. Maintenant, en prenant un peu de recul, en pensant à ce qu'il a encaissé comme tristesse, comme découragement, à quoi est-ce que cela pourrait ressembler pour nous? Ce qui s'est passé pour lui, c'est de voir un moment fort comme le moment du Mont Carmel et de vivre ensuite un changement complet. D'avoir eu de telles attentes et tout à coup de voir que la situation tourne au vinaigre. Et il y a peut-être un mythe qu'il nous faut déconstruire, démentir. Comme l'intervention de Dieu sur le Mont Carmel, nous pourrions penser que si Dieu accomplit tel miracle dans la vie de telle personne, alors c'est certain, cette personne va se tourner vers Dieu. Si Dieu intervient pour guérir mon voisin pour lequel je prie, c'est certain, il va se tourner vers le Seigneur. Ou alors si j'arrive à donner le bon argument, les bons arguments pour telle personne à mon travail avec qui j'échange sur la foi, c'est certain, elle va venir au Seigneur. Ou alors, si j'ai suffisamment d'écoute, si j'accompagne telle autre personne, si je suis prêt à servir, à aller jusqu'au bout de mon engagement en tant que samaritain ou ayant l'amour du prochain vraiment à cœur, alors cette personne va se tourner vers le Seigneur. Mais vous l'avez entendu ici, malgré tout ce qui s'est passé au Mont Carmel, le cœur du peuple peut se retourner, le cœur d'Acab peut tourner comme une girouette. Et ce qui s'est passé au lendemain du Mont Carmel doit justement démentir ces petits mythes que nous avons parfois. Un miracle, la bonne parole, le bon argument, la bonne invitation. D'un côté, nous voulons avoir à cœur l'annonce de l'Évangile et ne pas être indifférents. Nous voulons avoir une passion pour les âmes. Et d'un autre, nous ne voulons pas être comme dépendants des circonstances, comme si tel ou tel élément allait à coup sûr convaincre. C'est Dieu seul qui peut mener les cœurs à lui. Et nous nous en remettons à lui. Ce qui nous amène naturellement au deuxième rendez-vous, un rendez-vous avec Dieu dans les versets 5 à 8. Élie a rendez-vous avec Dieu et il sera bien présent. Tout à l'heure, en parlant du découragement d'Élie, j'étais un peu sévère avec une lecture individualiste, peut-être trop sévère. C'est l'occasion de tempérer un peu mes propos et de voir dans la manière dont Dieu traite Élie un soin personnel, individuel. Vous l'avez relevé en écoutant le texte. On voit cette compassion qui est témoignée dans la nourriture qui lui est donnée. Une cruche, un gâteau, signe de sa providence, mais aussi le rappel de sa providence passée, comme il avait pourvu dans le passé. Et il est donc tout à fait légitime de voir ici un soin personnel, individuel que Dieu a dans vos histoires, de vous souvenir de sa providence, de sa présence à vos côtés, dans les moments durs, dans les moments difficiles. Dans son état, Élie n'a pas d'abord besoin d'une leçon, d'un long discours. Notez qu'il a simplement à manger, à boire, à se reposer dans un premier temps. Et ensuite, dans un deuxième temps, il va rencontrer Dieu. Pour ce rendez-vous, il parcourt plusieurs centaines de kilomètres. Et qu'est-ce qu'on considère à ce moment-là? On a tendance à penser que c'est une sortie de route de la part d'Élie. On prend généralement la double question de Dieu, « Que fais-tu ici ?» comme une réprimande de Dieu. Verset 9, verset 13. Il n'aurait jamais dû fuir aussi loin. Mais notez qu'Élie n'est pas celui qui mentionne ce long voyage. Qui parle de voyage? Au verset 7, c'est l'ange, présenté comme l'ange de l'Éternel, qui parle de ce long voyage. Car le chemin est trop long pour toi. Que se passe-t-il pour Élie? Qui pose ce rendez-vous? Le mont Horeb est présenté au verset 8 comme la montagne de Dieu, autrement appelé le mont Sinaï. Annoncé par l'ange de l'Éternel, ce voyage dure 40 jours et 40 nuits. Est-ce que cela vous rappelle quelque chose? Est-ce que c'est évocateur d'autres circonstances? Et dans la même veine, on trouve toutes sortes de doublons. Il y a deux étapes dans le voyage, deux fois l'ange de l'Éternel qui se manifeste, deux fois il invite, en disant les mêmes paroles, à dire mange, lève-toi et mange. Deux fois, on trouve une référence à une grotte, qu'on peut traduire aussi creux dans le rocher. Deux fois, Dieu pose la question, que fais-tu ici, Élie? Et deux fois, Élie répond la même chose, donne la même réponse. Pourquoi ce voyage à la montagne de Dieu? Des siècles plus tôt, et c'est peut-être ça que vous êtes souvenu, l'ange de l'Éternel a donné un rendez-vous à Moïse. Il a donné un rendez-vous à Moïse sur cette même montagne. Le vent fort, le tremblement de terre, le feu rappellent les différentes manières dont Dieu s'est manifesté pour cette alliance avec son peuple lorsque Dieu rencontre Moïse sur cette montagne une deuxième fois. Pendant 40 jours, 40 nuits, Moïse est présent sur cette montagne. Et comment est-ce que le peuple s'est comporté? Une fois que la loi a été donnée, ils se sont détournés de Dieu pour se diriger vers une idole. Et il va falloir deux nouvelles tables de la loi. Conscient qu'il allait devoir conduire ce peuple qui est si prompt à se détourner de Dieu pour les idoles, Moïse veut voir Dieu. Et il va voir Dieu passer en quelque sorte, comme cela est mentionné dans notre texte. Dieu est passé. Et d'où est-ce que Moïse va voir tout cela? Du creux du rocher, protégé par un rocher. Double rencontre avec Dieu, qui renouvelle son alliance vis-à-vis d'un peuple qui s'est détourné vers des idoles. Tout cela est évocateur du passé, n'est-ce pas? Vous voyez les parallèles avec notre texte? Que dire de cette rencontre d'Élie avec Dieu alors? Nous sommes arrivés à un carrefour dans l'histoire. Est-ce que Dieu va faire comme la première fois et donner une seconde chance à ce peuple? Repartir à zéro? Comme il l'a fait au temps de Moïse? Est-ce qu'il va passer l'éponge sur l'idolâtrie de ce peuple? Est-ce qu'Élie est le prophète comme Moïse? Annoncé en Deutéronome 18, qui sera écouté. C'était peut-être l'attente d'Élie. Il pensait peut-être qu'il allait voir le cœur du peuple revenir, et c'est ce qu'on pense à la fin du chapitre 18. Mais finalement, ce n'est pas le cas. On se retrouve à un carrefour de l'histoire. Et cette fois-ci, ce n'est pas un renouvellement de l'Alliance. Ce n'est pas dans ces éléments mentionnés que Dieu se présente, pas dans le vent violent, le tremblement de terre, le feu. Non, c'est dans un souffle, un murmure. Dieu ne va pas se manifester de la même manière qu'il l'a fait avec Moïse. Invité à la barre, Élie doit répondre de la situation, témoigner de ce qui se passe parmi le peuple. « J'ai déployé tout mon zèle pour l'Éternel, le Dieu de l'univers. En effet, les Israélites ont abandonné ton alliance. Ils ont démoli tes autels. Ils ont tué tes prophètes par l'épée. Je suis resté, moi seul. » Et ils cherchent à m'enlever la vie. Là encore, on a l'habitude de lire cette affirmation d'Élie comme une parole très centrée sur lui-même, où il se focalise sur sa condition, sa situation, peut-être même avec une certaine arrogance. Mais est-il possible de le lire autrement? Si 100 prophètes ont été protégés par Abdias, c'est vrai, Élie n'est-il pas encore le seul prophète en fonction à ce moment-là? N'est-il pas vrai que les Israélites ont abandonné l'Alliance, démoli les autels? N'est-il pas vrai qu'on cherche à lui enlever la vie? Si on pense qu'Élie se trompe, qu'il est trop centré sur lui-même, qu'il a fait une sortie de route, alors comment comprendre les versets 15 à 18? Dieu y annonce qu'Élie devra oindre 3 personnes, Hazaël, Jéhu et Élisée. Et quel sera leur rôle? Il est résumé au verset 17. « Celui qui échappera à l'épée de Hazaël, Jéhu le fera mourir. Et celui qui échappera à l'épée de Jéhu, Élisée le fera mourir. » Nous sommes à un carrefour de l'histoire. Et ce royaume du Nord va bel et bien subir le jugement que Dieu a annoncé. L'invasion en 722 par l'armée assyrienne va être la manifestation de ce jugement. Et si le tableau semble sombre, on note que la mention d'Élisée rappelle que Dieu fait encore grâce, que s'il y a jugement, il y a encore une grâce qui est manifestée vis-à-vis de ce peuple par le ministère d'Élisée, témoignant de la patience de Dieu. On a relevé les parallèles entre notre passage et l'Exode, mais il faut dresser un autre parallèle. Des siècles plus tard, des siècles après Élie, selon les prophéties, un nouvel Élie s'est présenté, n'est-ce pas? Jean-Baptiste s'habille comme Élie, il appelle à la repentance comme Élie, il annonce un jugement comme Élie, et Jésus le présente comme l'Élie qui devait venir. Jésus, qui vient à la suite d'Élie, va lui aussi parler du jugement à venir, de l'urgence, de la réconciliation, de la repentance. Mais comme Élisée, et par ses miracles, il va en même temps témoigner d'un temps de grâce, d'une invitation à saisir le salut. La compassion de Dieu, sa patience, sa grâce sont témoignées dans son ministère. Alors comment doit-on réagir? Au verset 18, Dieu annonce à Élie, « Mais je vais laisser en Israël 7000 hommes. Ce sont tous ceux qui n'ont pas plié les genoux devant Baal et dont la bouche ne l'a pas embrassé. » 7000 personnes, c'est beaucoup ou c'est peu? En comparaison avec tout un peuple, 7000, ça paraît peu. Mais dans la peau d'une personne qui veut revenir à Dieu, qui veut saisir cette grâce, c'est suffisamment encourageant. 7000 personnes qui n'ont pas plié le genou devant Baal. J'ai cité l'apôtre Paul tout à l'heure dans sa lettre aux Romains et lui-même cite ce verset 18. Et pour lui, ces 7000 sont le symbole de ses compatriotes qui se tournent vers Jésus pendant qu'il en est encore temps. Ça peut sembler peu, mais c'est suffisamment encourageant pour ceux qui veulent revenir à Dieu. Et n'est-ce pas la même chose pour nous? 7000, ça peut sembler insignifiant face à toute une génération, mais c'est suffisamment encourageant pour toute personne qui veut, et peut-être même ce matin, revenir à Dieu, se détourner des idoles pour servir le Dieu vivant et vrai. Et si les ministères successifs d'Élie, Jean-Baptiste annoncent un jugement, nous sommes encouragés à la repentance, à saisir, pendant qu'il est encore temps, ce message de grâce que Jésus a incarné au plus haut point. Un rendez-vous nous est fixé avec Dieu. À la suite de Jean-Baptiste, Jésus s'est présenté comme plus grand qu'Élisée, plus grand que Moïse, plus grand que Josué, promettant un royaume à venir. Et regardant autour de nous, on pourrait être découragé par le nombre de personnes qui sont indifférentes à Jésus, ne désirant pas recevoir son pardon, sa promesse de vie. Et comme Jésus l'affirmait déjà en son temps, son royaume ressemble à une graine de moutarde. Il paraît insignifiant dans notre temps. Mais c'est un royaume qui grandit et qui continuera à grandir jusqu'au moment de son retour. Comment est-ce qu'il grandit son royaume? Par des manifestations de puissance, par le tremblement de terre, le vent, le feu, des miracles en pagaille. Et si c'était par un doux murmure, comme un bruit de couloir, des gens qui parlent ici et là de l'Évangile, qui parlent de Jésus à leur travail, qui parlent de Jésus dans leur entourage, dans leur voisinage, une parole qui se propage. Et nous sommes les ambassadeurs de Christ, appelés à inviter nos contemporains en tant qu'ambassadeurs d'un autre royaume, présent dans ce royaume terrestre. Nous sommes ambassadeurs au nom de Christ, comme si Dieu adressait par nous cet appel. Nous vous en supplions au nom de Christ. Soyez réconciliés avec Dieu. Je vous invite à la prière. Notre Dieu, notre Père, nous te demandons pardon pour cette vie souvent centrée sur nous-mêmes que nous vivons, sans considération réelle pour ceux qui nous entourent et qui meurent sans espérance, s'attachant à des idoles creuses et insignifiantes. Accorde-nous la joie d'avoir ce désir de voir nos contemporains venir à Christ, expérimenter la paix en lui, comme nous l'avons chanté tout à l'heure, comme un fleuve immense, c'est la paix de Dieu. Que d'autres puissent expérimenter cette paix. Et donne-nous, Seigneur, ce réalisme sur le cœur humain, cette tendance à boiter, à se tourner vers Dieu, à se détourner, comme notre cœur en témoigne souvent. Donne-nous, Seigneur, d'être participants de ce murmure, de cette parole qui se répand, discrète, mais parole puissante, parce que c'est toi qui en es l'auteur, c'est toi qui fais renaître, même dans les déserts, même des ossements, tu es en mesure de ressusciter les morts par cette parole vivante et efficace. Accorde-nous, Seigneur, d'être de fidèles témoins de cette bonne nouvelle dans notre génération, pour la gloire de ton nom et l'avancement de ton règne. En Jésus-Christ. Amen.